Salut Gège, déjà dans le studio ? Attends, mais on a déjà fait une émission vendredi, je sais pas ce qu'on va dire moi. Mbappé a signé pendant le week-end ou quoi ?
Ouais, salut tout le monde, ouais, j'arrive tout juste, mais là je suis super chaud, là j'ai bossé le futur mercato, le boulot de beau de mer, tout ça là, je suis vraiment à fond.
Attends.
Non mais par contre, deux émissions en trois jours, franchement, ça va être difficile. Hein.
Ce soir on parle pas foot les gars, ce soir on gosse pas Malherbe, ce soir on parle pas de relégation, ce soir c'est handball.
Attention, dans les buts, numéro 16, c'est Enzo Druguet.
Salut.
Et votre capitaine, le numéro 8, Jordan Allais.
On l'a fait.
Et notre coach, Sébastien Quintalet.
Merci au speaker, superbe. Reconversion, Seb, pour toi tout trouvé. Bonjour, bonsoir, ici la Cancaneuse sur Radio Phoenix. Bienvenue dans WAM l'émission, la première WAM l'émission qui fête une montée. Ouais, plus de 10 ans d'existence maintenant, rendez-vous compte, que des descentes. Alors pour inverser la tendance, on reçoit aujourd'hui une équipe cannaise qui joue dans l'élite. Bon, ça n'est ni le ping-pong, ni le hockey. Des os pour ces sports, mais pas de ballon, pas d'émission. Non, aujourd'hui, ce sera We Are Viking.
Yeah.
Alors pour m'accompagner dans cet exercice tout nouveau pour nous, autour de la table, on aura Silvio, Jérôme et Seb, mais surtout nos invités qu'on vient de présenter avec notre speaker. Je ne dirais pas qu'ils sont tous frais après leur séjour en Espagne. Je dirais pas ça, mais bref. Aujourd'hui, donc, on a le coach magicien des Vikings, Sébastien Quintalet, Enzo Druguet, le gardien, et El Famoso, Nicolas Seub, du handball, le capitaine Jordan Allais. Bienvenue à vous, et surtout à un truc qu'on n'a pas l'habitude de dire ici, bah félicitations, quoi.
Ah oui, sans moi.
Merci vrai, beaucoup.
Ça. Je crois que c'est la première fois qu'on le dit à l'antenne. Ouais. Félicitations.
Ça nous arrive jamais.
Alors par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on vous dise maintenant, on ne vous l'a pas dit avant, mais en fait, on a porté malheur à beaucoup d'invités qui sont passés ici, donc voilà, c'est vous qui voyez, vous partez.
La saison est finie.
Je suis passé l'année dernière et ouais. C'est très bien passé cette année.
Au
donc
final,
comme quoi,
ça a été. Hein.
Ouais. Bon, après la saison dernière, c'est moins bien terminé, mais c'est pas nous. Bon, même si c'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle. Avant de nous poser toutes nos petites questions, on va commencer par notre présidente à nous,
yes.
Seb. Un petit qui a tweeté quand même.
C'est ça. Donc un qui a tweeté ou qui a dit, bah Jordan, tu connais déjà, c'est je vais vous dire des phrases et il faut trouver qui a dit ces phrases, tout simplement. Ça va, la règle n'est pas trop compliquée. Hein.
C'est des joueurs de horde, pas de foot. Hein. Donc
non, mais c'est des joueurs de horde, ouais, on peut leur parler normalement, c'est pas des joueurs de foot.
Il y a un sujet ou pas du tout.
Il y a un sujet qui a trait à ce que vous faites au quotidien, paraît-il. Hein. Donc, qui a dit « Il faut se rendre compte de ce qu'on a fait. Ce sont des années d'entraînement, des années de sacrifice pour arriver à ce moment. C'est magnifique. » Qui a dit ça ?
Et moi, je dirais Alan.
Non.
Miloš.
Non.
Il est autour de la table ?
Sinon, je l'aurais fait avec l'accent. Mais...
Évite.
Non, il n'est pas autour de la table.
C'est un joueur.
Ouais. C'est Robin.
Ah, Robin.
Bien
Robin
joué. Paris. Le coach a trouvé. Qui a dit ? Alors, qui a dit ? Dormir, peux-tu m'expliquer le concept ?
Jordan.
Voilà, je suis désolé, je suis une balance, mais je balance mes messages privés avec Jordan. C'était le lendemain, évidemment, de cette victoire historique. Qui a dit ? Dans une ville qui aime tous les sports, le handball est en train d'écrire ses lettres de noblesse. On va vers le public. En travaillant auprès des clubs de la région, des groupes, il se passe quelque chose.
C'est Seb ou Thomas ?
C'est Thomas. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est quand est-ce qu'il l'a dit ? Il l'a dit en février 2025. Comme quoi ?
Pas mal.
Comme quoi, il est dans le vrai. Qui a dit ? C'est incroyable, on a marqué l'histoire du club, on ne veut pas s'arrêter là, mais d'abord, on va vraiment profiter.
Seb.
Non.
Jordan.
Non.
Alan.
Alan, bien joué. Alan Vilmino, effectivement, interviewé par l'ami Aline Châtel, d'ailleurs. Qui a dit ? Les joueurs, le staff, le président, les supporters, tout le monde mérite cette montée. Je pense à mon Jojo, donc Jordan Allais, qui est là depuis la National 3. Chaque année, il re-signe un an et il se retrouve en Star League. Lui, c'est plus qu'un ancien coéquipier, il est devenu une sorte de tonton.
Ah, Rayan.
Bien joué. Ryan Zuzo, tout à fait. Tu l'as pas vu ça?
Non, je l'ai pas vu.
Eh ben écoute, il l'a dit.
Tu vois, t'as bien fait de venir.
En plus, c'est bizarre parce que je déteste ce mec.
Oui, bah tu m'étonnes.
Paris, c'est proche apparemment.
Ouais, mais tu sais ce que c'est les médias, c'est totalement hypocrite. Hein, il en pense pas un mot de ce qu'il a dit.
C'est sûr.
Alors, on l'a dit à chaque fois, j'innove. Hein, là, c'est pas un qui a dit, pas un qui a tweeté, c'est un qui était à Festiland hier. Oui, c'est ça, paraît bizarre.
Qui était à Festiland hier?
Qui était à Festiland?
Ah, je sais.
La mascotte.
C'est oui. Patator.
Il y avait un rendez-vous des mascottes.
C'est ça.
J'ai raté ça, je suis deg. Donc, je suis passionné de mascottes.
C'était la 4e édition, je crois, du Festival des mascottes.
Ah,
où
ouais.
Patator, effectivement, la mascotte des Vikings, était présent.
C'est chaud.
Ouais. Donc, j'en profite pour faire un jeu. Allez, est-ce que vous connaissez la mascotte du CBC?
Ah, Dunky.
Bien joué. la mascotte du hockey.
Oh là non.
Qui est d'ailleurs le nom de l'ancienne mascotte de Malherbe, Léo.
Wow. Ah bon, on avait Léo. Ah oui, Léo.
Alors, j'ai appris qu'il y a une mascotte de l'Ovalicanaise aussi.
Ah oui.
Elle s'appelle Ovaline.
Je la joue.
Ovaline.
J'y vais pourtant, mais.
C'est vrai ?
Ouais, je vais les voir souvent.
Voilà. Bon, et après, c'est plus du sport. Hein. Il y a Girafou, il y avait Carambar. Voilà. Il y avait pas la chef de
Malherbe. J'espère que Patator a un peu chambré. Ah, il était pas là, Viking ?
Non, il y avait pas
Viking. Il aurait pu chambrer.
Qui a dit ma femme s'est sacrifiée pendant ces 3 semaines car notre petit garçon est arrivé. Elle a géré comme une déesse, ce qui m'a permis d'être en forme pour ces playoffs et peut-être de marquer ce tir au but. Merci à toi, merci à tous.
Mathieu Cornette.
Non. Ah, c'est lui le père.
Vous savez dévoiler ça maintenant, toi.
Coupez les gars.
C'est ce canard de Jordan.
Point coin.
Bon, tu pouvais quand même. Tu peux encore la remercier.
Ouais, nous aussi,
oui, on peut y aller. Hein. Ouais. Y a pas de
problème. C'est la minute d'Aaron. Il faut les remercier.
Kikadi, j'ai vécu d'autres grands moments, mais celui-là, c'est le numéro 1. Sans ce public, je ne sais pas si on serait monté.
Miloche.
Ouais. Non.
Oh, j'aurais dit Miloche aussi.
Il a dit ça aussi.
C'est pas Alan à la cérémonie.
Il
y
en a peut-être un qui sait ici.
Enzo Drugui.
Ouais, c'est moi. Bon.
Ouais.
Ah oui, exact.
C'était juste après le match, je pense.
Il parle bien, le gars. Ouais, c'est ça. Kikadi, je note qu'il y a 2 ans, ils étaient en grande difficulté sportive, qu'ils avaient changé d'entraîneur au mois de janvier, qu'ils ont réalisé une première saison de très belle facture.
Président et qu'aujourd'hui. Du
basket. Ouais, c'est ça. Donc, il dit
Il va faire mieux.
Je suis très heureux qu'il monte, etc., etc. Bref, totalement hypocrite. Je déconne. Non, c'est pas. Il y a une concurrence entre le basket et le hand ou pas?
Pas pour nous, non, on est content.
Bah non, ils sont en dessous, donc il n'y a pas de problème.
Non, mais même, nous on est content de. On suit un petit peu les autres sports, on est content. C'est une ville sportive avec plein de clubs de haut niveau, on adore ça. Un public qui suit tout le monde, donc c'est génial.
Et j'en ai un petit dernier qui a dit: je peux parfois être chiant parce qu'il faut de l'exigence. On se fait confiance et j'adore quand le sport récompense tout ça. Je suis heureux, on a gagné beaucoup de matchs et maintenant on rentre dans l'univers extraordinaire de la Star League. Il va falloir apprendre à gérer des moments plus difficiles. Tout ne va pas être rose.
Chiant, c'est Enzo, forcément.
Fais gaffe à ce que tu dis quand même, il pourrait être autour de la table.
Coach Seb.
Bah ouais, c'est le coach. C'est le coach qui tout de suite prévient. Il y a à la fois la joie
attention,
de la montée et en
je vais
même
être
temps
encore
le...
plus
attention.
Chiant la saison prochaine, c'est un peu ça.
C'est ça.
Bon, merci Seb. Donc on a pas mal de questions pour vous. La première qui me vient, c'est ça va, on vous dérange pas, niquer complètement la réputation sportive de Caen là, travailler pendant des années à base de défaites, descentes.
C'est un peu la Fédération française de la Loose.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Ouais, vous avez eu un clin d'œil de la Fédé de la Loose qui vous ont en gros. Je sais plus ce qu'ils ont mis, genre pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait.
C'est ça.
Ah, vous avez déçu le sport canet quelque part.
Ouais, on l'a déçu. La petite dédicace de la Fédération française de la Loose nous a bien fait plaisir quand on a vu ça en caisse noire.
Bah, c'est la classe, hein.
Ouais, non, on était content. En vrai, c'était cool.
C'est quoi cette caisse noire là?
Bah, c'est des amendes qu'on se donne entre joueurs pour qu'il y ait un peu un règlement intérieur de l'équipe.
Donc, alors, surtout, vas-y, explique, il y a quoi dans le règlement?
Bah, les tout. Retards, par exemple. Ouais. Tout ce qui est possible, les retards.
Les gros mots ou
pas? Pas les gros mots, dommage. Heureusement.
Les embrouilles.
Les petites embrouilles entre joueurs.
Les tenues.
Les mauvaises tenues.
Oubli de matériel, chasuble, shampoing, tout. Ils comptent tout. Chaque jour, ils sont à la fuite.
Est-ce que le coach peut être sanctionné?
Non.
On a essayé. On a très bien compris que ça n'allait pas fonctionner. Donc,
et du
on
coup,
a vite arrêté.
Et du coup, qui est-ce qui a contribué le plus?
Bah là, il y en a deux qui contribuent beaucoup quand même.
Là, on est très très bien avec Enzo.
Mais il y a un Yacine Ben Salem qui envoie.
Qui détrône tout le monde. Ouais.
Nilton Melo aussi. Nilton
pas
qui est vraiment
et aussi
bien.
Lorsqu'ils ont quand ils sont mis en lumière sur une interview, quand ils sont nommés ou qu'ils gagnent un set.
Milos, il a pris cher.
Milos, il a pris cher. Typiquement, l'émission.
Ah, donc c'est aussi positif, c'est pas que des sons.
Oui, oui, voilà. Ouais. Typiquement, l'émission d'aujourd'hui, s'il y avait encore une caisse noire, on aurait dû mettre dans la caisse.
Après, on peut l'envoyer à Louis pour que tu prennes l'année prochaine.
Oui, on peut peut-être faire un truc comme ça. On peut éviter.
Et à quoi a servi la caisse noire du coup ?
Et bah, du coup, on est parti en Espagne, à Alicante, pendant 5 jours 4 nuits et
surtout 4 nuits,
voilà. Et on a bien
dormir,
visité, on a bien visité, on a bien marché dans la ville.
On était
alors
où, déjà
sur le plan
Alicante,
ah oui,
ouais. Sur le plan culturel du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de la ville, des trucs sympas?
Bah, le soleil déjà, très bien. Ça change un peu de chez nous.
Le terrain de volley, quand même,
terrain de volley, on l'a bien pratiqué. Et puis bah, le reste, on va regarder. Bon,
il y a quelque chose au bout d'Alicante là. Un endroit où il y avait pas mal de musique.
Il y avait du bruit
assez,
ah
ouais, souvent.
Ah ouais, ouais. Vous leur avez demandé de baisser le bruit.
Ouais, c'était un peu.
Et vous en récupérez.
Quand on se couche à 20h, c'est chiant.
Ouais, voilà. On est déjà focus sur la prépa prochaine. Donc.
Bon, et du coup, pendant ce séjour-là, vous avez eu l'occasion de débriefer la finale. Vous êtes dans quel mood? Vous êtes redescendu un peu de votre petit nuage? Pas encore?
Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense qu'on se disait, même encore là-bas, après quelques jours, qu'on réalisait pas vraiment ce qui nous arrivait. Mais non, on a regardé 50 fois les vidéos de la séance de tir au but.
Ah, les pénaux, on les a regardés beaucoup
de fois. La célébration de Yanis aussi, avec tout le monde, certaines personnes qui décident de plonger comme ça tout seul pour fêter la victoire.
Beau plongeon.
Très beau plongeon devant les supporters. D'autres qui étaient en train d'escalader les tribunes pour aller avec les supporters. Et bah, ça nous donne les frissons, je pense.
Oui, toi, t'as fini torse nu au milieu des supporters.
Ouais, j'avais envie de montrer un peu. La prépa physique, faut bien que ça paye à un moment donné.
Tu le fais pas en début de saison, bizarrement.
Non, j'attends. J'attends que le travail paye, en fait. Faut que le travail paye. Une fois qu'il l'a payé, on peut se permettre de montrer les choses.
Bon, très bien.
Tiens, justement, par rapport à ça, ouais, tiens, par rapport au début de saison, je crois qu'on a quelqu'un qui voulait te poser une question.
Salut les gars. Encore bravo pour cette montée. Franchement, c'était un énorme kiff cette année de bosser ensemble. J'ai quand même une petite question concernant Jordan. Je voulais savoir si l'année prochaine, il fallait que je mette une routine préventive pour éviter les blessures sur des exercices au poids du corps, notamment en lien avec les tractions, ou si on évitait de retravailler de cette façon-là l'année prochaine, voilà, histoire que j'adapte les différentes routines individuelles.
Alors, c'est qui ?
C'est un salaud. Et c'est notre préparateur physique, Adrien Bouilly. Et ouais, j'ai eu quelques petits pépins suite à quelques tractions cette saison. Donc non, je pense que Adrien, pour te répondre, on va abandonner les tractions, on va travailler sur d'autres choses, mais la course.
Les tractions, elles avaient lieu pendant une séance de musculation ou...
Et non, c'était du travail
c'est
en plus.
C'est durable.
C'est du travail en plus.
Bien sûr.
Et sur le travail en plus, j'ai réussi à me blesser. Donc voilà, je pense que c'est pas fait pour moi, le travail en plus. Je vais rester sur les séances classiques. Ouais. Et ce sera très bien comme ça. Merci Adrien.
Bon, c'est quoi le programme là ? Vacances quand même, après les premières vacances en Espagne. Et reprise quand pour vous ?
Le 20 juillet.
Très bien.
Ah ouais ?
Ah, Jordan a fait. Jordan vient de l'apprendre.
Il a changé
de
billet d'avion.
Non, bah le programme c'est du repos. Du repos pendant une quinzaine de jours. Et puis après aussi, assez rapidement, la reprise du sport pour arriver en forme le 20 juillet. Et repartir focus pour faire une belle saison.
Vous avez du coup une prépa physique individuelle, vous avez les leçons à faire pendant les vacances?
Ouais, bon, on l'a pas encore reçu, mais...
Ouais, moi j'aime bien qu'ils se reposent. Après, ils sont sportifs, ils aiment ça, ils vont bouger. Après, peut-être un ou deux joueurs, il faut faire attention au poids, peut-être un joueur.
Nilton?
Non, mais Jordan, il revient à chaque
c'est
fois.
Pas bien
très
de
moi, je suis arrivé, ça fait pas longtemps. Ouais. Chaque année, il arrive en meilleure forme, chaque année, il progresse... Il fait aussi des efforts sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on perd pas tant au moment où on reprend et qu'ils profitent aussi de leurs vacances pour arriver avec aussi de la fraîcheur mentale. S'ils passent leurs vacances à faire des exos, Adrien, il va bien sûr envoyer. Il y en a qui ont besoin, qui adorent ça, et tant mieux. Mais aussi, ils peuvent aussi se reposer et arriver en forme. De toute façon, ils sont sportifs, donc ils vont bouger. Il y a personne qui va arriver hors de forme.
Et parlons-en pour toi, Jordan. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, pour dire, pour ceux qui connaîtraient moins le hand, pour nos auditeurs qui connaîtraient moins le hand, Jordan, on l'avait déjà reçu. Donc, Anaïs l'a dit, Jordan, en gros, c'est le Nicolas Sub, c'est le Nico Sub des Vikings. Et, mais en gros, c'est comme si Nico Sub avait commencé dans les catégories de jeunes, avait connu toutes les divisions et qu'en gros, bah, tu approches plutôt de la fin de ta carrière et là tu découvres la première division, la Star League. Ça va être un truc de malade.
Ouais, bah c'est un peu un rêve. Hein. Quand je suis arrivé au club en moins 18 de France, jamais j'aurais pensé pouvoir avoir ce parcours avec ce club et pouvoir jouer un jour en Star League. Bon, c'est pas encore le cas parce que j'ai pas encore joué en Star League, mais on est monté et bah, c'est un rêve éveillé. Ce que je disais aux gars, c'est que j'arrive pas encore à prendre vraiment conscience de tout ça, de cet exploit et du fait que je vais jouer en Star League, être un joueur de cette équipe, et moi, ouais, c'est extraordinaire.
Donc bizarrement, c'est pas cette saison où tu te dis tiens, je vais peut-être raccrocher les...
Non, bizarrement, il y a un petit surplus de motivation, même si j'en manquais pas.
Oui, oui. Oui, d'autant que tu as été énormément mis à contribution, ce qui a eu en plus... bah, vous êtes globalement deux pivots. Fares Ghoul qui s'est assez longuement blessé, du coup, ce qui t'a amené à avoir beaucoup plus de temps de jeu que je pense que prévu.
Ouais, bah sur les plays, ouais. Jordan joue toujours. Les deux jouent beaucoup, ils se répartissent ouais. bien, je ouais. trouve, au fur et à mesure de la saison, le temps de jeu. Mais sur les playoffs, on enchaînait 6 matchs de top niveau, en tout cas pour nous, en 18 jours. Oui, Jordan, il a fait les 6 matchs en jouant tout le temps en attaque non-stop. Ouais.
Et du coup, Jordan, ça a changé 2-3 trucs en termes d'entraînement, de préparation, le fait que Fares se blesse comme ça.
Bah, ça n'a pas tant changé. Après, ça a presque plus changé tactiquement pour Seb parce que bah, il voulait m'économiser au maximum pour que je sois performant en attaque. Donc, il y avait pas mal de changements à faire attaque-défense parce qu'on peut se permettre de faire des changements en attaque-défense. Mais moi, personnellement, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui m'a plus changé, c'est éventuellement l'arrivée de mon petit Marceau. Le 18 mai, en plein début des playoffs. Donc ça a été plus une adaptation sur le côté personnel que sur le côté sportif, parce que bah voilà, physiquement, on était préparé à ça, et puis Seb a mis des choses en place pour que je me pète pas non plus, donc que je sorte un maximum en défense pour pouvoir être performant en attaque.
Enzo, toi, de ton côté, la saison prochaine ?
Eh ben moi, j'arrête ma carrière. Voilà, je vais rentrer chez moi, commencer une nouvelle vie. J'ai un projet qui m'attire et j'ai hâte de le commencer, qui sera autour du hand et du padel.
Ok. Voilà. Mais tu pars comme un prince sur une victoire, quoi.
Je pars heureux d'avoir vécu trois saisons dans ce club. Je me suis régalé, je suis content. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire un peu, on en a parlé un peu juste avant l'émission en off, des vraies raisons qui quelque part t'amènent à arrêter, parce que c'est pas anodin d'arrêter tu as 26 ans, c'est ça ?
C'est ça, je vais avoir 27 ans. Non, en fait, j'ai pris beaucoup de ballons dans la tête qui m'ont poussé à arrêter, parce que j'ai commencé à avoir peur du ballon à l'entraînement. Et quand t'es gardien de but, avoir peur du ballon, c'est vrai que c'est pas la meilleure des choses. Donc, bah, au lieu de faire une année ou deux années en trop, je préfère arrêter maintenant, commencer une nouvelle vie. Et voilà, mais...
Bon, tu confirmes la légende qui veut qu'un gardien de hand, on a forcément un grain, quoi.
Forcément, si tu regardes tous les matchs de haut niveau, franchement, à 80% des matchs, il y en a encore hier en Ligue des Champions, il y en a eu. Donc voilà, il y en a forcément, même si tu essayes de te cacher et tout, tu vas forcément prendre dans la tête. Donc en fait, tant que ça fait rien, y a pas de problème, mais moi ça a commencé à me faire quelque chose, surtout dans l'appréhension. On peut pas appréhender la balle quand on est gardien de but.
Pour revenir sur ta question, déjà je pense pour prendre la décision d'aller dans les cages, faut être complètement débile.
Oui.
Mais faut imaginer que toi, Enzo, t'as commencé à quel âge dans les bus ?
Mais j'ai commencé gardien de foot, en fait. Et donc, quand je suis allé au hand, automatiquement, je me suis mis dans les cages.
À quel âge ?
Je devais avoir 10 ans, 11, 12 ans.
Ah, donc ça fait 17 ans que tu prends régulièrement des balles dans la tête.
Ouais, ça explique bien des choses.
Donc ça explique un petit peu le...
Ouais.
S'il a un peu de mal pour répondre à vos questions,
si c'est pour ça, on parle doucement.
Un peu à cause de ça.
Ouais.
Non, mais ça c'est vraiment... Même nous, quand on se met dans les cages, juste pour rigoler, les joueurs... Alors que les gars tirent pas fort,
c'est un poste magnifique,
ça fait vraiment peur.
Mais bah moi voilà, j'en suis là. Alors qu'il y a des gardiens jusqu'à 40 ans, il peut ne pas y avoir de problème. J'aurais aimé être dans ce cas, mais c'est pas le mien.
Ouais, c'est hyper courageux de
ouais, c'est un poste magnifique parce qu'il est le gardien est décisif, souvent
décisif
pour l'équipe. Soit il vient récompenser le travail de la défense, soit il vient combler ce qu'a pas réussi à faire la défense. Et c'est vraiment un poste très très décisif. Après, pour revenir sur Enzo, Enzo c'est un mec qui a été génial pendant toutes ces années. C'est pas facile aussi. Lui, il était derrière le numéro 1, donc il faut qu'il soit chaque jour à fond. Parce que même s'il joue moins en match, l'exigence et le niveau qu'il doit faire pour que l'entraînement soit de qualité, il doit être au top. Dans la motivation, dans la transmission aussi aux autres de l'énergie. Donc il a été génial voilà, tout au long de qu'on a collaboré ensemble. Et il a été important aussi pour l'équipe, même si à la finale, c'est Miloš qui a été décisif sur le terrain, mais Enzo, il a contribué aussi au fonctionnement de tout ça et pour que tout le monde soit fort. Et je le remercie.
Merci, coach. Ah bah, clairement, sur le banc, c'était peut-être toi qu'on voyait le plus, qui était le plus attaqué. Par contre, il y a un truc qui ne me rassure pas, petite parenthèse perso, j'en ai causé l'autre fois avec Jordan, c'est que ma gamine qui joue au hand, ses deux postes de prédilection, c'est gardien et pivot. Bref, les deux postes de taré, quoi. Ça ne me rassure pas.
Bon, on continuera les petites questions plus tard. Silvio, je crois que tu nous as préparé un petit jeu collectif, c'est ça ?
Alors c'est ouais, enfin c'est collectif, mais pour les Vikings.
Nous, on n'a aucune chance de gagner. Enfin, cela dit, c'est comme ça d'habitude pour moi. Ouais, je gagne pas les jeux, donc.
Alors effectivement, mais là en plus il y a pas de points, marqués, mais ça va permettre de connaître un petit peu plus les Vikings pour ceux et celles qui seraient un peu plus novices. Donc je vous ai préparé un petit tu préfères. D'accord. Okay. Principe est simple. Hein. Tiens, on va commencer par Enzo. Tu préfères avons-nous la maîtrise de nos paroles ou peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Non, c'est juste que je surveillais la philo ce matin. C'est ça. Non, plus sérieusement. Donc Enzo.
Parce que j'avais pas la réponse là.
Ouais. T'inquiète pas.
Dans 3 heures, tu peux tenter un truc. Mais...
Justement, ça rebondit un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu préfères être titulaire dans un club qui aurait un peu moins bien marché ou second avec la montée ?
J'ai connu un peu les deux. C'est une question qui est vraiment difficile. Mais là dans le cas où on monte, là, second avec la montée. Mais quand même, c'est bien de jouer.
Ouais, ça se comprend. Sébastien, tu préfères les deux buts cruciaux de Yanis Mancel ou les deux arrêts de Miloš pendant la séance de péno ?
Wow.
Ouais, c'est chaud, hein.
Vraiment trouver une réponse ?
Ouais, tu peux dire les deux.
Ouais, ça peut être les deux. Hein. On t'en voudra pas.
Non, mais les deux, parce que le but. Après, Yanis, c'est la conclusion d'une action collective et il finit le travail. Ça, c'est son talent, son expérience. Après, le penalty, les autres aussi qui ont marqué avant, ils sont déterminants. Bien sûr que lui, il a le penalty de la gagne. Il restait encore une occasion, même si les autres marquaient, qu'on ait encore un penalty de la gagne après avec Anser. Miloš a été décisif, il nous a mis aussi la sérénité dans cette séance. Donc c'est dur, les deux et tous les autres aussi.
Ouais, de toute façon, ça a été incroyable. Ouais.
Miloš, il a fait une grosse montée en puissance, je trouve, sur la saison pour avoir fait la chance de voir quasiment tous les matchs. Je trouve que sur la deuxième partie de saison, il se révèle complètement. Là où je trouvais, mais alors attention, j'ai un niveau de connaissance du hand qui est très faible. Je trouvais que c'était pas. On était habitué à Jean-Emmanuel l'année dernière qui était explosif et j'ai trouvé qu'à partir de janvier-février, Miloš, il a vraiment explosé. C'était très très fort.
Ouais, on sortait de Jean-Emmanuel qui avait conquis complètement le public, qui était un joueur qui communie aussi beaucoup avec le public, qui avait fait une saison excellente. Miloš, lui, il est arrivé, on a vu tout de suite, entre nous en tout cas, sur sa capacité à l'entraînement à être un très bon gardien, on n'avait aucun doute. Après, c'est un métier où c'est difficile en match de prendre le rôle aussi de. Tout à l'heure, je disais pour Enzo, c'est difficile d'être deuxième, mais c'est. Premier, c'est la pression de devoir être bon, donc d'appréhender tout ça, d'avoir confiance en soi, de. Commencer aussi à s'extérioriser un petit peu. Il l'a fait, bien sûr, il a trouvé sa place. L'équipe l'a aidé. Enfin, voilà, c'est la belle histoire de cette équipe. C'est que tout le monde fait en sorte que chacun puisse s'épanouir. Et effectivement, il a vraiment bien intégré son rôle au fur et à mesure de la saison.
Oui, vraiment.
Alors, Jordan, tu préfères un palais qui te siffle ou un palais éteint ?
Un palais éteint.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Après,
parce que j'ai connu le palais éteint, c'était... pas fou. Au début, on était au Palais des Sports, au nouveau Palais des Sports, on n'avait pas des très bons résultats. C'était pas fou. Mais se faire siffler par son public, ça doit être particulier quand même. Ouais.
Ah, puis on a vu ce que ça donne quand le public pousse. Alors quand le public va contre, ouais, ça peut s'imaginer. Ouais.
C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que sur ces finales, on en a joué la finale retour à Créteil et on était à domicile. Avec ce public de dingue.
Alors, Sébastien, tu préférerais gagner sans la forme contre le 16e de Star League, mais gagner quand même, ou une défaite après un match d'anthologie contre Montpellier?
Non, mais j'adore quand non, alors regarde, j'adore quand je joue bien. Si on est capable de super bien jouer, mais malheureusement de perdre à la fin contre un des top 3, c'est plutôt bon signe. Mais comme on aura besoin aussi de victoire, on va déjà prendre une victoire contre le 16e, même sans la forme, parce que les points, c'est important aussi pour être serein.
Ouais. Enzo, est-ce que tu aurais préféré gagner les playoffs plus facilement ou avec ce scénario-là?
Non, mais avec ce scénario-là, bon, il n'y a pas de doute.
Ouais. Non, parce vraiment... qu'après, on aurait pu se dire, nous, derrière notre télé, physiquement et mentalement, c'était compliqué. Alors, on imagine.
Par contre, à l'intérieur de ça, c'était dur. Hein. On a souffert, c'était dur. On s'est battu du début à la fin. Dans tous les compartiments, c'était dur. Mais on a fini le match au coup de sifflet final. On était éteints. Vraiment. Ouais. Enfin, du coup, on a fêté. On a mis ce qu'on n'avait plus, on l'a quand même mis pour fêter. Mais non, c'était fabuleux.
Alors Jordan, tu préfères prendre les choses en main ou laisser faire un peu les copains? Et je précise que je suis toujours en train de parler de vente.
On parle pas d'Alicante.
Ah, ça me dérange pas.
Je préfère laisser faire les copains. Enfin, c'est quoi exactement le terme?
Bah, est-ce que toi, en tant que capitaine, tu préfères à un moment prendre les choses en main et jouer le patron? Ou est-ce que tu préfères laisser faire un peu plus les...
Moi, je suis plutôt le style de joueur à laisser au maximum faire les autres. Bien sûr, quand il a fallu attirer ce penalty, j'avais énormément de pression parce que l'histoire, elle était belle que si je le marquais. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de pression. Mais de voir, par exemple, on peut reparler du but de Yanis. Je préfère que ce soit Yanis qui ait mis ce but égalisateur que ce soit moi. Parce que pour lui, c'est une fin de carrière et que c'était, pour moi, il n'y a pas de meilleure façon pour lui d'arrêter sa carrière. Donc ma vision est plus sur le collectif que sur mes performances personnelles.
D'ailleurs, par rapport à ça, Sébastien, on a vu justement que t'étais tout près de faire rentrer Yanis en fin de match à l'aller. Est-ce que le match retour, enfin justement ce but-là, est-ce que pour toi il vient un petit peu de cette frustration qu'il a pu avoir peut-être ou de...
Ouais, ça c'est sûr.
Ouais.
Qu'il s'est nourri aussi de sa frustration de ne pas pouvoir jouer avant. Après... Yanis revenait d'une blessure vraiment importante. Il a un mental d'acier, donc il a fait tous les efforts avec le staff médical et lui aussi pour être capable d'être sur le terrain pendant les playoffs. Quand il est revenu, au début, alors lui, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais quand on le voyait, c'était difficile, ses impulsions. Alors même s'il s'arrachait au mental et avec sa main, il arrivait à mettre des buts, mais il n'était pas encore capable de pouvoir enchaîner à ce rythme-là. Moi, ma crainte, c'était par rapport à ça. Et j'ai voulu emmener sur le dernier match, à partir du moment où je l'ai fait jouer un petit peu, quand on a gagné largement le quart de finale retour. Donc il y avait une petite fenêtre pour lui, et en plus il a eu 3 ballons en un rien de temps, en 5 minutes. Mais après, pour moi, il manquait encore un petit quelque chose. Et je ne sais pas comment il récupérerait de jouer à fond. Et j'avais besoin que lui, il puisse jouer à fond, parce qu'il y a la défense, il y a replié. On fait déjà 2 changements, donc c'était important que lui, ce n'est pas un joueur qui sort, donc il doit aller très très vite. Et puis un petit peu avant le match, moi j'avais ça un petit peu en tête de le faire jouer à la finale retour. Et puis je l'ai un peu poussé un ou deux jours avant pour voir vraiment s'il était à fond. Il a montré qu'il était capable de sprinter, sauter. Donc il avait énormément d'envie lui aussi. Il était frais quelque part et apte à pouvoir jouer cette finale. Et on a besoin sur ces postes-là du talent, de l'expérience. Et Yanis, c'est un mec qui a mis énormément de buts dans sa carrière. Il met un but. On parle de son penalty et du dernier but. Bien sûr qu'ils sont super importants, mais il nous met un but en début de match où il est le seul de l'équipe à mettre ce genre de but sur un tout petit angle. Où on est un petit peu en difficulté en attaque, finalement, avec très peu d'angle, il y va, il met. Et nous, ça nous laisse en confiance. Et ça valide le fait que, on joue bien. Mais voilà. Donc il a fait une très, très belle finale. Et c'est magnifique aussi pour lui de terminer comme ça.
Bien, merci. Merci, Silvio, pour ton petit tu préfères. J'ai pas de réponse pour la philo. Est-ce que je peux te rendre ma copie un peu plus tard ou pas?
T'as 4 heures, si tu veux.
Super, parfait. Nickel. Petite question de nouveau pour toi, Sébastien. Tu es arrivé à Caen en janvier 2024, c'est ça?
Oui.
Ouais, au moment où le club était dans le dur.
Dernier, je crois.
On peut se le dire. Quelle est la recette et est-ce que tu peux la passer à un copain qui s'appelle Gaël?
Non, il n'y a pas de recette, mais il faut croire en ce qu'on fait, croire aux gens avec qui on bosse et croire en l'équipe. Et puis après, tu ajustes aussi en faisant... les joueurs qui peuvent te correspondre et avec qui tu penses pouvoir atteindre le niveau, mais c'est transmettre ça. Ils avaient fait une première partie de saison délicate, mais ils avaient tout pour la preuve. Enfin, moi j'ai vécu, ça reste un super moment aussi. Vous voyez, cette année on a connu une finale, c'était génial. Cette année une très grosse saison, plus on gagne la finale, mais je dis toujours que mes premiers mois ici, quand on a bataillé tous ensemble pour se maintenir, j'ai adoré ça aussi, parce qu'il faut aller chercher les ressources chez chacun d'entre eux, et ils avaient ça, il fallait réveiller un peu tout ça, et donc voilà, après c'est du travail de ma part, mais de la part des joueurs.
Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à faire une Mercadal Courbis.
C'est vrai.
Ben oui, parce que le coach précédent est resté dans un rôle quoi, directeur sportif, manager.
Oui, un petit peu de manager. Il s'occupe de beaucoup de choses administratives pour
matchs,
le club
et
de
l'équipe réserve. Oui, guillemets.
Exactement.
Donc voilà.
Ça peut marcher.
Ils ont fait exactement ça, sauf que ça a marché.
Ouais. Mais c'est souvent ça à Malherbe. Hein. Souvent, on essaye de faire comme les autres et ça marche pas. Mais rarement. Et pour le coup, ça sera ta première saison en Star League, toi, en tant que coach?
Non,
ou
t'as
pas
connu à Star League.
Non, t'as connu à Star League.
Ouais.
En tant que joueur et en tant que coach aussi.
Voilà.
Sur les deux. Ça.
Donc du coup, tu peux prévenir. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ne l'ont pas connu. Il y a quand même quelques-uns qui ont déjà joué en Star League dans l'effectif. Ou...
Peu au final. Hein.
Alan Miloche. Peu. Mais non, mais après, cette équipe, elle est faite aussi. Si on pensait pouvoir réussir à un moment donné à monter, c'est qu'elle est constituée aussi de joueurs... Moi aussi, je pense qu'ils ont la capacité et le potentiel pour jouer en Star League. Bien sûr qu'il faut découvrir le niveau, comprendre que maintenant, on y est, c'est plus un rêve et il faut se battre. Donc, il faut ajuster plein de petits points.
C'est quoi les principales différences, alors, hormis le niveau, bien sûr, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses marquantes qui font qu'entre Pro League et Star League, il y a quoi comme différence?
Il y a la différence qu'il y a 3-4 équipes. Les 3-4 premières équipes sont vraiment très très hautes.
PSG, Nantes-Montpellier.
Ouais, c'est vraiment très haut. Même si peut-être qu'on réussira un coup contre Montpellier, tu m'as fait saliver. Mais non, mais voilà, trois équipes qui sont vraiment très très hautes. Après, 3-4 équipes qui sont aussi au-dessus. Et après, c'est du très haut niveau, mais c'est archi compact.
Hein.
Et ça peut batailler soit pour les places européennes, soit dans une mauvaise saison pour ce genre d'équipe, à batailler également pour le maintien, c'est ce qui s'est passé cette année. Donc, ce qui change, voilà, c'est ça. Et ce qu'on a bien fait pour gagner des matchs dans des moments très importants, une petite perte de balle, la gestion du ballon, la maîtrise. En haut, il y a un peu plus de maîtrise encore. Donc nous, on va devoir franchir ce step. Il y a bien sûr qu'il y a le physique, la technique, etc. Mais ça peut aller. Mais c'est la maîtrise vraiment de donner le meilleur de soi.
Je crois que c'est dans l'interview que je citais tout à l'heure de Zuzo, où il parlait justement d'Alan. Comment dire, de Jordan, pardon. Il y a à un moment, il disait que pour lui, il trouvait que la Star League, ça joue entre guillemets un peu moins vite et que les actions sont plus construites.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais, bon, nous on construit nos actions. Non, ça joue vite. Tu te fais punir. Si tu fais des erreurs, tu te fais punir plus vite encore que moi, je trouve. Okay. Tu te fais punir plus vite
que un avant-goût.
Si tu merdes un peu. Par contre, après, nous, maintenant on y est. C'est un travail maintenant qu'on va faire pendant la prépa. À nous de se montrer qu'on peut rivaliser, embêter le maximum d'équipes et de lutter toute l'année. Et en sachant, voilà, ça va être un peu moins idyllique. Là, on enchaînait victoire, 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 victoire. A priori, ça va pas être comme ça. Mais malheureusement, il va falloir se préparer. Et malgré tout, entre l'équilibre, entre garder de l'ambition, un peu de l'insolence par rapport à tout le monde, eux, les autres, pour l'instant, même s'ils vont être contents de venir ici parce qu'ils savent que c'est une super salle avec un super public et dans le handball, ça va faire beaucoup de bien. Mais quelque part, c'est la petite équipe. À nous de contester ça, de faire en sorte de contester ça et d'être dans cet esprit-là.
Et justement, pour jouer à cet étage au-dessus, vous allez vous renforcer. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu de mercato? Donc, j'ai vu qu'en termes d'arrêt, donc il y a toi, Enzo, on l'a dit, qui arrête. Il y a Robin Paris qui arrête. Il y a Yanis. Robin, l'arrête pas, il part
à Draguignan.
À Draguignan, ça. Yanis Mancel qui
arrête. Il a choisi sa saison, lui.
Parce qu'en fait, pour expliquer là encore pour nos auditeurs qui sont peut-être un peu plus fouteux, et c'est notamment toi qui m'avais appris tout ça, Jordan, c'est que en fait les les transferts en hand, ça se fait, ça se prévoit assez tôt par rapport au foot où en gros il y a la fenêtre de mercato qui s'ouvre et ça.
Et voilà. En plus, nous, c'est que le dernier jour à Malherbe.
Et voilà, et comme en plus à Malherbe, on les prépare pas les mercato, on les fait 2 heures avant et encore. Mais vous, en fait, en gros, quasiment 6 mois avant, vous savez où vous allez jouer la saison prochaine et même vous l'annoncez. Enfin, ça pose pas de problème. Du coup, est-ce que, au-delà de ces départs, est-ce qu'on sait, donc on a, j'en ai parlé de 4 ou 5 arrivés, est-ce qu'on a déjà des noms qu'on peut annoncer ou pas?
Alors, moi, j'ai pas de problème. Après, si le club a pas encore communiqué, ça c'est leur stratégie. L'équipe, elle est faite depuis.
Non, mais il y a personne qui écoute. Hein,
en... Ouais, ouais. Attendez, mais si on parle un peu, je peux peut-être, on va voir. Mais non, mais l'équipe. Elle était faite pour être... Chaque année, on essaye de faire un petit peu mieux, de renforcer par rapport à ce qui nous manque, donc par rapport au niveau Pro League, mais toujours avec l'ambition de monter, et des joueurs toujours qui correspondent à un potentiel que moi, j'estime être capable de jouer aussi au niveau au-dessus. Donc, il y a des joueurs qui sont recrutés depuis très très longtemps, qui étaient... déjà prévus pour renforcer
l'équipe. Allez, vas-y, un petit nom, là, c'est que ça doit se savoir.
Oui, on peut, de toute façon...
tu regardes Jordan, Jordan est responsable communication aujourd'hui.
Non, mais ça va
aujourd'hui.
Pas vous faire, après, ce sont des joueurs, c'est des jeunes joueurs. Non, par exemple...
Au pire, on coupera.
Eh bien... Qui on va dire mais vous ne connaîtrez pas, hein, mais à l'arrière-gauche, Maxime Discan, ça c'est un jeune joueur grand, 2003, comme pas mal de joueurs qui composent cette équipe, qui va venir renforcer le poste d'arrière-gauche, travailler aussi en défense, il fait 2m03 pour amener un petit peu de taille, mais c'est un joueur assez mobile, qui a été formé à Toulouse, et qui était à Cournon cette année, donc il n'a pas terminé non plus encore sa formation, oui, mais de pouvoir continuer à progresser pour exprimer son potentiel, mais je pense qu'il va bien coller à notre équipe. Au poste de pivot, mais qui a un rôle aussi défensif, qui est très grand aussi, c'est Owen Abodogo, qui est aussi un jeune joueur qui était à Frontignan cette saison. Ça, ces deux joueurs, c'est des joueurs qui étaient assez ciblés par pas mal d'équipes, soit de Star League, soit de Pro League, mais qui ont décidé de venir chez nous, parce que le projet de notre équipe, ce que l'équipe est capable de dégager, le club, ils sont venus chez nous, donc c'est des jeunes joueurs encore, mais qui ont un vrai potentiel.
Jordan sourit.
Est-ce qu'il va lâcher le nom ou pas?
Un jeune ailier droit.
Karabatic, allez, dis-le, c'est bon.
Non.
Sors de sa retraite.
Non, après, regardez, pour parler, on va pas, c'est pas une histoire de nom ou quoi, mais dans la philosophie,
ouais.
L'équipe est montée, elle est construite pour. Si moi, je leur dis chaque jour qu'on a le potentiel pour monter, etc., c'est que cette équipe-là, elle a le potentiel pour aller là-haut. C'est pas question. De dire, vous montez, maintenant on change tout.
On prend 5 nouveaux, salut quoi. 7 nouveaux.
Mais même 10 nouveaux. Après, par contre, bien sûr qu'il va y avoir quelques petits ajustements, parce que là-haut, on doit exister, on doit être... c'est important pour le projet du club, pour la réussite, et que cette année, la première année, elle va être forcément difficile, mais qu'on doit exister, on doit être bon. Donc évidemment qu'on va un petit peu plus que prévu se renforcer, un tout petit peu, mais le moins possible. Moi, je veux déséquilibrer le moins possible ce qui est déjà en place.
Mais c'est notre éternel débat foot, cette histoire de constituer l'équipe plutôt pour la saison d'après.
Oui, tout à fait.
Et il ne faut pas hésiter à en parler également aux
faut
voisins
donner des conseils.
Qui font des équipes pour jouer le national au lieu de jouer la montée. Quoi.
Mais comme quoi, c'est ça qui est vachement intéressant et sain, je trouve, dans le hand, quelque part, par rapport au foot, c'est que tu... constitue ton équipe avec le niveau que tu veux avoir. Alors après, soit tu arrives à monter là comme ils l'ont fait, génial, et s'ils n'avaient pas réussi, bah quelque part ils auraient recruté les joueurs pour réussir à monter
et donc, beaucoup plus en amont.
Non, ouais, c'est ça, et c'est après une histoire de moyens. Après, plus tu as de moyens, bah plus tu, c'est pas forcément la meilleure recette, mais plus tu prends des joueurs peut-être qui connaissent déjà là-haut et tu crois qu'eux vont t'aider à monter. Ouais. C'est pas toujours le cas. Moi, j'aime prendre des joueurs que j'imagine avec une marge de progression et maîtriser ce niveau-là, et avec eux, c'est le cas de la constitution de l'équipe aujourd'hui, on est capable de monter. Et maintenant, il y a encore un petit step. Donc le travail, là, ils vont toujours progresser. Et Jordan est un exemple. Quel âge tu as, Jordan?
33 ans.
Il a 33 ans, mais vraiment, ça fait pas 1000 ans que je suis ici. Je le connaissais quand même d'avant, mais depuis que je suis ici, chaque année, il progresse. En fait, il acquiert des nouvelles choses qu'il n'était pas capable de, même s'il avait déjà du talent. Mais il y a des choses qu'il ne faisait pas il y a 2 ans, ça c'est certain, que ce soit dans... Il a toujours eu le sens, il a une main, ça bien sûr que ça s'invente pas, on peut pas. Mais par contre, chaque année, il comprend que dans tel domaine, il doit évoluer et réussir à le faire. Donc, 33 ans, on réussit à le faire avec la bonne mentalité. Quand tu as 22, 23, 24, 25, 27, tu progresses toujours, tu progresses jusqu'à la fin de ta carrière si t'as, la bonne mentalité.
Bon, alors en début de saison, vous avez eu le droit un peu à un avant-goût de Star League avec la venue du PSG en Coupe de France. Thomas, dans son édito, avait dit c'est un match de gala, ça va nous permettre de voir l'écart qui nous reste à combler pour la Star League. Un an après, si tu reprends le PSG maintenant, l'écart il est un peu comblé ou il y a encore du travail? Il y a une très belle photo d'ailleurs de toi avec Karabatic qui est magnifique, où tu fais tout petit à côté.
C'est vrai que je ne fais pas très grand.
C'est pas très grand à côté.
Non, Paris c'est dur. Paris c'est difficile. Paris c'est difficile parce que c'est vraiment...
C'est un autre monde, quoi.
Et même presque, enfin on verra comment ça se passe, mais c'est un match à part.
Oui.
C'est comme ça. Donc c'est pas avec eux qu'il faut se comparer, mais dans l'année on fait pas mal de matchs de préparation. Que ce soit l'été ou même au mois de janvier face à des équipes de Star League, ben, déjà cette année, même si c'est pas avec l'enjeu, ça reste que des matchs amicaux, donc faut pas non plus s'enflammer, mais on a fait plutôt des très bons matchs contre les équipes de Star League. Mais on doit se servir de ça aussi pour dire, même si ce sont que des matchs amicaux, l'année dernière, quand on avait joué Cesson à tel moment, on avait fait ceci, cela, voilà, ça veut dire que le niveau...
Et on en parlait, donc niveau budget, donc je regardais, donc le PSG c'est 17 millions de budget. Alors ça c'est les chiffres du hand, hein, pour comparer, Malherbe en Ligue 3 c'est 12 millions, donc comme quoi on parle pas des mêmes budgets. Et Caen, j'ai vu, donc ça devrait tourner autour de 4 millions de budget, ce qui situe...
Dommage, le président n'est pas venu, on aurait pu lui demander une petite rallonge.
Ce qui situe le hand, enfin les Vikings, dans une moyenne basse, dirons-nous, de Star League, mais pas ridicule en tout cas.
Jérôme, justement, tu vas nous aider, ouais, à peaufiner notre connaissance.
La Star League un peu. On va voir si vous êtes au taquet sur la Star League. On va faire un petit quiz, on va voir qui est bon. Est-ce que vous savez en quelle année a été créé le championnat de Star League?
Ah, de Star League avec le nom Star League?
Ouais.
2017?
Alors non, pas avec le nom Star League, de Star League, pardon.
Du championnat.
La première division.
2002 ou 2003?
La première division de Horn, excuse-moi.
Ah bah, 1950.
Mmh. T'es pas loin, 1952.
Oh, pas mal.
C'était la 74e édition cette année. Ça, je vais pas vous la poser parce que vous allez mal le prendre, hein. En quelle division sont relégués les derniers du classement? Vous en sortez. Une petite spéciale, on va parler un petit peu du PSG, hein, nos grands copains. C'est effectivement, comme tu disais, Seb, ils sont dans un autre monde. Hein. C'est un peu comme au foot, il y a le PSG, l'enjeu est de savoir qui va finir deuxième. Combien de titres de champion de France le PSG compte-t-il après la saison 2025-2026?
14.
13. Presque. Je te parle en hand, hein, pas en foot.
Mais oui.
En quelle année le PSG a-t-il décroché son tout premier titre de champion?
Moi, je dirais 2014.
Presque.
2013.
Ouais, bien joué.
Il est chaud, Enzo, quand même.
Il est pas mal. Hein.
Je Jordan le laisse, parce que Jordan est plutôt pas mal.
Tu laisses, beaucoup de matchs. Je crois qu'on l'a vu jouer. Quel demi-centre néerlandais orchestre le jeu parisien?
Staines.
Bravo.
Ouais, c'est ça. Quel arrière-gauche international français, l'un des cadres offensifs du PSG?
Qui répond?
Vas-y, Enzo.
Prandi, ouais, Prandi. Exactement. Quel pivot international français passé par Montpellier?
Prandi qui a donné son nom à un tir. Le tir où tu te jettes pour contourner le mur.
Ouais, le tir Prandi. Où tu te dis, j'aimerais pas être gardien dans ces moments-là.
Moi, j'étais plus sur Prandi, Pranda, tu vois, rien à voir.
Oui, petit garçon de Chine, aussi. Bah, c'est lui aussi, tu vois. Et d'ailleurs,
Lucas Karabatic.
Alors, quel pivot international français passé par Montpellier et ensuite rejoint Vespren puis Barcelone?
Non. Fabregas.
Ouais, bien joué. Exactement.
Jetch Fabregas.
Alors.
Je le connais.
Attention, on y arrive. Alors, il faut savoir que je me paume toujours dans mes.
C'est pas radiophonique, mais il faut que les gens sachent qu'il est perdu. Là.
À la dernière émission, je me suis gouré dans les sons que j'envoyais. C'est un petit peu un marque de fabrique. C'est quoi le nom commercial actuel du championnat?
Leaky Moly Star League.
Ouais, vous savez ce que c'est, Leaky Moly?
Oui, c'est
de l'huile moteur.
Ouais, c'est un spécialiste de lubrifiant. Voilà. Je trouvais que cette information-là.
Pour moteur.
Pour
préparer les défaites.
On a un public de footeux, donc il y a des petits mots-clés comme ça qui passent bien. Tiens, tu parlais de l'équipe qui a été le plus champion. À ton avis, c'est qui?
Qui a été le plus champion?
Le plus de titres de champion, ouais.
Bah, c'est le PSG.
Eh ben non.
Montpellier.
Ouais. Et Montpellier avec 14. Un de plus que le PSG. Petite question comme ça. Combien y a-t-il de buts en tout, la saison dernière? Vous avez une idée ou pas?
Non.
Sur l'ensemble des matchs.
En tout.
Ouais.
Ah, tu veux calculer là?
Bah, tu fais 1000 fois 16.
Ça, c'est pour les profs de maths. C'est quand les épreuves de maths du bac?
Y en avait la semaine dernière.
Ah, voilà.
16 000.
Bah, un peu moins.
13
000. Un peu moins. Ouais, on a 13 976 buts, ce qui fait une moyenne de rapidement 62 par match. Ouais, donc ça chiffre quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Vous allez retrouver des copains l'année prochaine en Star League avec qui vous avez joué. On va retrouver qui?
Jean-Emmanuel Kouassi.
Ouais, qui est avec ses sons, qui n'est pas descendu.
C'est ça.
Ryan.
Ouais.
Ryan Zuzo. Bah moi, personnellement, Alex Morand, qui est passé au club aussi il y a quelques années, qui avait fait Ponto et là qui a ses sons aussi avec Jean. Rudy Seri.
Non.
Ah non. La boulette.
Pas la boulette. Vas-y, vas-y, c'est quoi la blague?
Bah, ils sont redescendus.
Ah merde.
Oh, c'est pas bien.
La petite vanne au passage. Au
ouais, c'est sympa. C'est très très
oh,
sympa.
Salaud.
Qui d'autre? C'est tout?
Bah, c'est tout.
En termes de gens?
Ouais. Bah, Servoirgin, vous le savez, c'était quoi les deux clubs qui sont montés en Pro League en 2025-2026? Il y en a que vous avez perdu en finale.
En Star League.
Dijon et Célestat.
Ouais, Dijon et Célestat. Et les deux continuent. Hein.
Non, Dijon et
Célestat.
Dijon
et Célestat.
Justement, Dijon et dernier, Célestat ce matin.
J'avais dit que j'étais perdu dans mes jeux.
Ça, c'est rare, mais l'équipe qui a gagné les playoffs se maintient et celle qui a terminé première descend. Ouais.
Comme la saison qui
comme
vient.
Comme la saison prochaine.
Exactement, c'est ce qu'on souhaite.
Ouais, c'est
d'ailleurs, pour revenir sur les joueurs qu'on va retrouver, il y a Denis Erdarevic qui joue à Célestat, qui est l'un de mes meilleurs amis, et qui a joué à Caen, avec qui on est monté en Pro League la première fois.
Je t'ai pas dit que mon jeu était super complet. Attention.
Non, non, mais moi, j'ai envie de faire la petite dédicace à mon petit Denis, il joue gardien de but.
Ouais, ça, c'est le gardien.
Et qui est d'ailleurs parrain du club où joue ma fille, Suisse-Normande, Handball Club. Ouais.
Exactement.
L'USAM, c'est quoi?
C'est Nîmes.
Ouais, bien joué. Ah, je vous ai pas dit que c'était compliqué, les gars.
Qu'est-ce
que ça représente? Il y a un club du Nord qui a cassé l'hégémonie des titres du Paris Saint-Germain en 2014, c'est Dunkerque. Eh ben, vous êtes pas mal, les gars. Ça vaut un maintien l'année prochaine, ça.
Merci.
Au moins. Voilà.
Au moins. Hein.
Merci Jérôme. Les Handballix te remercient. On a pu réviser
exactement,
un peu
exactement.
Grâce à toi. Et oui, alors ta fille aussi, Silvio, fait
Du
hand.
Ouais.
Mais alors,
toutes nos filles font
toutes
du hand.
Toutes nos filles, à tous les gars,
Manon
font du
hand. Et Romane aussi.
Absolument. Romy aussi. Bon, Romy, elle en a marre, elle arrête, hein, je vous le dis. Ah. Mais bon.
C'est vrai.
Elle a pris beaucoup trop de branlées cette saison avec son équipe de Douvres. C'est Douvres,
moi,
les petits.
Il faut juste que je vois, moi, combien ça gagne une handballeuse. Parce que là, sélectionnée en équipe départementale du Calvados, j'hésite à lâcher mon taf et à tout miser. Je suis sur un projet Mbappé, mais en hand. Je sais pas si ça rapporte.
À nous, notamment, ils ont pris une tartine par les petits Vikings, les pauvres. Ah, ah là là, quand vous allez voir les matchs, c'était dur.
On était
dans une autre dimension.
Non, la biscotte, c'est en rugby.
Ah, pardon. Je savais. En parlant de branler, il s'est passé quoi à Saran? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une soirée avant, il y a eu un truc. Ouais.
Je vais à tous vous souhaiter une bonne journée. Je vais rentrer à la maison et je les laisserai prendre.
Merci
pour l'invitation.
Tu laisses Enzo répondre, c'est ça?
C'est son côté capitaine, il délègue.
C'est ça. Non, bah qu'est-ce qui s'est passé? On a pris une claque, on s'y attendait pas. Et c'est un peu ce match-là qui nous coûte, le titre. Donc il y avait beaucoup de frustration parce qu'on a, pour ceux qui savent pas, on a fini premier ex-aequo en fin de championnat.
Ouais.
On était trois équipes ex-aequo et bah, c'est notamment dans les derniers matchs de la saison, ce match-là à Saran qui aurait pu être capital pour la montée.
Il y avait celui de Créteil, hein, je l'ai raconté tout à l'heure en antenne, mais il faut savoir que je fais venir mon papa ce jour-là pour lui dire « Tiens, viens voir, les handball, ça gagne toujours, c'est trop bien, l'ambiance est géniale, viens voir Créteil. » Et là, ambiance vraiment pas ouf au palais.
Mais d'ailleurs...
Défaite de merde, hein, dire franchement.
Ouais, pas un gros match.
Voilà, pas un gros match, ouais.
Et pour rebondir justement sur ce que tu dis, est-ce que quelque part vous n'appréhendez pas un peu le fait que bah, là ça fait nos deux saisons où je ne sais pas quel est votre pourcentage de victoire, mais c'est monstrueux. Je pense que même si on est très optimiste, il risque d'être un peu inférieur l'année prochaine. Ça risque pas de vous faire un peu bizarre tout ça?
Bah franchement, à l'heure actuelle, je suis juste content d'être monté.
Ouais, ouais, savourer.
Je suis encore dans savourer tout ça et puis après on fera ce qu'il faut pour que le public ait envie de venir nous voir, même s'il y aura certainement plus de défaites l'année prochaine. Nous, on aura à cœur de montrer de belles choses et de tout donner sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui importe aussi le public. C'est ce que donne l'équipe au-delà même du résultat pur.
Ça dit, je pense qu'il va y avoir un côté un peu Malherbe, parce que comme Malherbe, historiquement, vous savez, c'est le club, c'est l'ancien club de foot avant qu'il existait là. Avant, on jouait, on était toujours c'est entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et en fait, en Ligue 2, bah, on avait l'habitude de voir pas les victoires. En Ligue 1,
Ça, tu parles d'un autre temps.
Mais... Oui, non, je parle d'un autre temps, de l'ancien club. Et en Ligue 1, c'est vrai que bah, on perdait beaucoup de matchs, mais quand on gagnait un match, c'était un truc de malade et une ambiance de fou. Donc c'est vrai que c'était bien aussi.
C'est arrivé deux fois, je crois.
Et d'ailleurs, par rapport à l'ambiance, le public canet, il est très très fidèle, hein, comme on a pu le voir au foot. En national, en début de saison, on avait encore des 15 000 spectateurs. Donc vous allez pouvoir compter là-dessus, même dans les moments plus compliqués. Donc ça, c'est chouette.
Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Jordan, tu parlais de frustration tout à l'heure, justement, après cette défaite-là, etc. Mais vous avez quand même eu une force psychologique cette saison, mais même par rapport à la saison d'avant, quand tu perds la finale de play-off et que derrière, tu confirmes... Il y a un gros travail psychologique chez vous, ou c'est simplement la force du collectif, ou il y a une prépa aussi mentale là-dessus?
Bah, je pense que ce qui a fait nos forces ces deux dernières années, c'est vraiment le collectif. On a vraiment réussi avec les anciens, enfin ceux de l'année dernière, à garder cet état d'esprit qui était ultra conquérant, ultra amical entre nous. On n'était pas juste des collègues de travail, et je pense que ça a pu faire la différence, notamment tout au long de la saison, évidemment, mais surtout pendant les playoffs.
Ouais. Et encore là,
comme on l'a vu,
final,
ça s'est joué au tir au but. Donc,
on perd à l'aller et au final.
Voilà, on perd à l'aller. Un scénario un peu catastrophique parce que on avait le match en main en première mi-temps. On perd final à domicile avec une ambiance, mais comme j'ai quasiment jamais vu. Et les gens étaient quand même, ils étaient en feu, c'était dingue. Et puis là, 300 personnes qui arrivent dans le gymnase de Créteil pour jouer contre Ivry, c'était fabuleux. Nous, à l'échauffement, on en parlait avec Enzo pendant la caisse noire là. Juste à l'échauffement,
quand
on avait...
tu rentres dans le gymnase, c'est les frissons. Ouais. Tu sais que c'est magique. Tu vas tout ce que t'as, tu vas en mettre encore plus. Franchement, c'était fabuleux de les voir rentrer. Ils nous ont aidés.
Match retour où d'ailleurs vous vous êtes amusés, mais enfin moi j'étais comme un fou, enfin comme tout le monde. C'est comment ça a fait le yo-yo entre à vous commencer avec le 4-0. Bon, eux, ils marquent leur premier but, qui soit dit en passant, n'y est pas. et puis après, c'est dans la deuxième mi-temps, vous commencez à vous détacher. On se dit, bon, on va même pas se faire peur. Et ça y est, ils les ont tués, il n'y a plus qu'à confirmer, etc. Finalement, ils recollent, ils reprennent les devants. Et là, on se dit, oh, les cons, ils sont passés si près, c'est foutu. Finalement, égalisation de Yannis.
C'est exactement la même chose dans les cons. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'est-ce qu'on fout là?
C'est ça. Ouais, sur le terrain, vous avez vécu la même chose. En fait, moi, ce qui m'impressionne dans tout ça, c'est de se dire que quand je vois l'émotion qu'on ressentait devant, soit devant le match, soit derrière sa télé, etc., c'est de dire que vous avez vécu tout ça sur le terrain sans jamais craquer et en ayant la ressource mentale de se dire « Ok, on a cru que c'était fait, finalement, on a cru que c'était mort, et puis bing, on y retourne et on va chercher cette séance de tir au but. » Parce que j'imagine que comme au foot, il y a toujours le grand débat est-ce que les tirs au but, c'est la loterie? J'imagine que encore moins au hand, non, c'est pas la loterie. Il y a aussi une part de travail, une part de talent du buteur, du gardien lorsqu'il arrête, etc. Finalement, vous avez fait un truc de fou.
ouais, mais après, pour revenir sur ce qui s'est passé à l'intérieur du match, bon, il y a bien sûr la force collective, le public, etc. Ça, c'est fondamental, mais il y a aussi ce qu'ils sont capables de comprendre et de faire sur le terrain. Ils l'ont super bien fait pendant très longtemps. En finale aller, y a eu un gros trou d'air qui nous a fait mal, mais on a eu le mérite et les joueurs ont eu le mérite de s'accrocher. Ça, c'était fondamental de ne pas sombrer en deuxième mi-temps pour que l'écart reste très serré. Donc, deux buts à la fin. Et à la fin, on est confiant parce qu'on sait qu'on n'a pas tout bien fait. On a raté des choses et il fallait corriger. Après, c'est la capacité à corriger, ce qu'ils ont super bien fait là-bas sur la finale retour. Et malheureusement, dans les 10 dernières, on est très très bien. On a fait un grand match. Vraiment, c'est un de mes matchs favoris. Sauf que dans les 10 dernières, on commence à refaire des petites bêtises où c'est le manque de maîtrise que je vous parlais tout à l'heure avec la différence avec au-dessus, où tu le payes cash. Mais après, il fallait pas que sur le terrain, ils se disent « Putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Ça, c'était après le match, il était fini. Mais pendant le match, il fallait continuer de dire « Merde, on est en train de merder, mais on a les ressources pour s'accrocher et réussir à aller jusqu'à cette dernière action où Yannis met le but. » Et là, ils sont... En fait, je sais pas... Moi, j'étais assez confiant. Bien sûr, je suis pas content quand on se fait remonter et qu'on tue pas le match à 5 minutes de la fin. Mais quand on a ce ballon, je sais qu'on va le mettre. Je vois dans... Ils sont tous concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Yannis, je me pose même pas la question quand la balle va lui arriver que qu'ils le mettent. Ils sont déjà en train de, parce qu'on a joué à 7 sur cette dernière attaque, qu'on n'a pas de gardien, les changements, ils sont très concentrés, même à ce moment-là, ça file, on est tout de suite prêt pour la suite. Et quand on arrive au penalty, moi je, bien sûr qu'il faut que ça se passe bien, mais eux, il faut qu'ils montrent beaucoup de détermination. C'est Alan Jordan et Mathieu qui commencent à marquer les trois premiers. Et puis pendant ce temps-là, Miloš fait deux arrêts, donc on est assez serein.
Bon. Juste pour revenir sur ce scénario rapidement, on est à plus 5 je crois à un moment donné quand Louis il tire à 12 mètres de la cage en contre-attaque, ce gros débile.
Voilà, ça règle les comptes.
Et on est à plus 5 et je vois au fur et à mesure que notre avance elle commence à fondre. Et là il y a un moment donné je me dis putain là on est vraiment en train de faire les cons, faut qu'on se reprenne. Et quelques secondes après Seb prend un temps mort, je crois, hein, avant les 5 dernières minutes. Et je sais pas, au temps mort je nous regarde tous. Et je comprends qu'on va le faire.
Ouais.
Genre, je sens qu'on se dit, on a fait les cons, mais on a toutes les ressources pour aller, chercher ça.
On fait pas jusqu'à la fin, c'est notre jour, on doit c'est aller. Ça.
Parlant de gros débiles, on en parle du match aller quand tu coupes la trajectoire du ballon sur la relance du gardien. j'ai pas dit si je parlais de toi ou du gardien.
Ouais, c'est ça, on laisse le suspense. Non, bah, c'est bien joué de sa part. Hein. Il y a un règlement, on n'a pas le droit de couper.
Il l'a fait exprès, tu crois?
Oui, je pense qu'il l'a fait exprès, oui.
Bah il après, avait c'est... déjà essayé
ouais,
avant.
Il avait déjà essayé. En tant que gardien,
parce qu'en fait, on a revu la vidéo du match aller pour le match retour. Et en première mi-temps, déjà, je coupe la zone et moi, je concentrais pour sortir au plus vite. Et en fait, dans l'action, sur le moment, je vois pas que la balle passe à 2 cm de ma tête. Mais en fait, sur la vidéo, on voit clairement qu'il me vise la tête et elle passe vraiment à 2 cm. Donc non, bah c'est...
Après Jojo, t'as réussi sur la finale retour quand même à faire un fou rire aux arbitres.
Oui.
Quand tu te baisses et que tu te mets au sol pour éviter la balle.
Oui, exact.
T'as réussi à détendre l'arbitre. Ouais. Et c'était assez marrant à voir avec une tension comme ça autour.
Justement, pendant la saison, je te disais tout à l'heure, je suis souvent derrière toi, un petit peu plus haut, et je te vois régulièrement faire des allers-retours avec la table de marque. C'est quoi le niveau de l'arbitrage en Pro League? Parce qu'on a fait quelques matchs ensemble avec Seb. C'est un sujet qui fâche, mais...
Jordan vient de repousser le micro.
C'est compliqué.
Il n'assume rien.
C'est compliqué, j'ai l'impression. Quoi.
On a ah, vous avez trouvé une formule.
Vous avez Régis Laspalès qui a la table de marque.
Ah oui, à Caen, c'est vrai, on est d'accord, c'est le sosie de Laspalès.
On rigole souvent avec Seb, c'est vous qui voyez. Mais
Non, l'arbitrage, après, on plaisante, des fois on se plaint, etc. Après, ils sont fondamentaux aussi dans. Le fait que pour faire notre sport, on a besoin vraiment des arbitres. Après, c'est en Pro League, il y a beaucoup de binômes qui arbitrent aussi en Star League. Et puis, il y a des jeunes binômes aussi qui sont au début de leur carrière, en fait, à haut niveau.
Qui ne peuvent que progresser. C'est
voilà. ou pas. Mais non, mais parfois c'est frustrant si on ne se comprend pas, en fait. On a plutôt tendance à accepter les erreurs. Par exemple, vous voyez, sur la finale aller-retour, je crois qu'il y a eu des erreurs de chaque côté tout au long, mais c'est deux paires d'arbitres qui ont tenu le match. Voilà, il n'y avait pas de débat, dire putain, ça nous empêche. Mais de temps en temps, ça arrivait quelques fois, pas beaucoup, quand on a perdu. Mais
surtout quand on a perdu.
Surtout quand on a perdu, on avait du mal à comprendre un petit peu ce qui se passait. Mais le niveau, ça bosse. Et là, il y a une paire qui était. Il y avait le Final Four ce week-end, il y a une paire française qui participait. Au Final Four, et donc voilà, l'arbitrage.
Après, pour leur défense, c'est super dur. Hein. Ça va à une telle vitesse.
Ah, ouais,
et franchement, parfois, entre un passage en force et une faute du défenseur, franchement, il y a parfois, tu peux siffler.
Il faut savoir que quand tu gueules, nous, on gueule aussi.
Ah, oui,
on comprend pas pourquoi, mais par principe.
Oui, mais moi,
gueule.
Ça me rassure. Ah, oui. Parce que je ne comprends jamais rien aux décisions, mais finalement. Je suis peut-être pas complètement
la
seule.
Non, c'est pas facile. Et puis, il faut voir aussi, quand je vois, moi, ce que je trouve hallucinant, ce qui me fait toujours marrer, c'est Jordan. Mais pourtant, c'est un beau bébé, Jordan. Mais qu'est-ce qu'il prend? Mais c'est un truc de taré, quoi.
Ah, on aime ça, on aime bien.
Oh, putain, mais,
on aime le contact. Hein.
Mais ce qui est fou, c'est de voir que t'as un arbitre en face de toi qui voit que ton maillot, il est difforme tellement tu te fais arracher. Mais non, après c'est ce qu'on aime dans le hand aussi.
C'est le lot du poste de pilote. Ouais. Et pour revenir sur les arbitres, c'est dur et en plus ils sont pas professionnels, donc ils ont tous des travails à côté. Mm-hmm. Donc,
Ah ouais, d'accord, c'est pas une délégation pro. Okay.
Oui, Sébastien.
Et j'ai
non,
vu.
Non,
ils sont faits pour le haut niveau et oui, ils sont pas pros, ils sont pas
c'est
à temps
pas leur
plein.
C'est pas métier à temps plein quoi.
Ils consacrent, il y a des suivis, un DTN de l'arbitrage, ils ont des suivis sur. Sur chacun de leurs matchs, un découpage de leurs actions, etc. Donc tout est fait pour qu'ils progressent. Non, en règle générale, par exemple cette saison, on a été très bien arbitré. Et les fois où c'est un peu moins bien, mais c'est tous les sports où il y a un arbitre, où il y a un peu de subjectivité. C'est pas... Quand nous, on le ressent pas comme ça, c'est des moments un petit peu... Mais on n'a pas à se plaindre dans notre sport, en tout cas sur l'arbitrage français.
On a vu tout au long de l'émission que vous étiez venu avec 2-3 munitions à mettre à 2-3 petits camarades. On va vous donner une dernière chance de mettre un ou deux taquets pour la route. Silvio, tu as des petites questions.
Ouais, c'est le moment ou jamais de continuer à se défouler un peu là, sur les copains. Enfin, ou sur vous-même, hein, c'est vous qui voyez. Donc dans l'équipe, qui est le plus fêtard? Il y en a trop.
16, ouais. Il y en a 16.
Il y en a 16, pas mal. Hein. Il y en a 16, pas mal.
Après, il y a des noms.
Bah, vas-y, je te laisse. Tu dirais qui?
Ouais, je dirais...
De toute façon, tu t'en vas, vas-y, donne.
Hein. Anser, il aime bien. Mathieu. Peux...
Ouais. Anser, Mathieu.
Mathieu, c'est Mathieu.
Je me permets, moi, de compléter parce que c'est sourcé, c'est dans la presse. Hein. Je cite Ouest France, la semaine dernière. Avec la casquette d'organisateur de voyage et d'ambianceur, comme à son habitude, Jordan Allais a programmé ce séjour de 4 jours, financé par la caisse noire de la saison. C'est dans la presse, hein, j'invente rien. C'est
oui,
c'est
moi
vrai.
J'organise, après je mets les pions en place, après chacun fait ce qu'il veut.
Après, t'organises jusqu'à 5 heures quand même. Quand,
oui, il faut qu'on puisse rentrer en toute sécurité.
C'est normal.
Et alors, du coup, la question inverse, qui est-ce qui est le plus pépère, le plus plantouflard
Le plus pépère, ce serait Alan, je pense. Alan Villeminot.
Ah ouais.
Bah oui, c'est le plus... Oui. Ah, et en plus, il est papa. Bah moi, oui. Je suis pas mal non plus, du coup, depuis que je suis papa deux fois aussi. Je dirais, Alan et moi, on est peut-être ceux qui sortent le moins sur l'année.
Toi, Jordan.
Ouais. Non, mais en fait, c'est aussi... Il y a aussi Yanis, hein. Alan, Yanis et moi.
Yanis, c'est la loot.
Ouais. Ah ouais.
Là, je dirais, on est les trois. Bon, après, Enzo n'est pas d'accord.
Bah, pas
donne
d'accord.
Ton avis, toi.
Non, Alan, un peu moins, mais il l'a été tout autant que nous sur la caisse noire.
Ouais. Qui est le plus caractériel?
Mathieu.
Il y a des noms là.
Oui, Mathieu.
Mathieu Cornet,
Mathieu,
donc.
Mathieu, il peut vite partir. Anser, il peut vite partir. Les deux fêtards, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est peut-être lié.
Sébastien, t'avais l'air d'avoir des noms aussi.
Ouais, mais.
Ouais.
Il y en a plus de noms que ça.
Ah, après Enzo, si on le taquine un peu trop fort, ça peut partir très loin aussi.
Ah ouais. Ouais, mais...
Surtout quand on fait du foot d'ailleurs. Sa personnalité elle change un peu, c'est le Dark Enzo qui débarque.
Je suis pas vraiment d'accord non plus.
Je suis d'accord avec moi-même, ça suffit.
Alors lequel est le plus tête brûlée? C'est genre le mec qui met la tête là où tu mets pas le pied, quoi.
Tu peux répondre, ça aussi.
Ah bah, c'est brûlée. Bien que ce soit vous.
Plus tête brûlée. Bon,
si on s'arrête juste à l'expression tête brûlée.
Mathieu.
Non, tête brûlée. T'as pas un autre mec?
Ah bah
vient...
Yacine.
Ouais, moi c'est
Yacine.
Tête brûlée, Yacine.
Ouais, Yacine.
Après, est-ce qu'il met la tête peut-être?
Si, mais c'est vrai aussi. Hein.
Bah, je me souviens d'une expression formidable de sa part où il hurle sur le banc contre l'arbitre et il se fait dégager suite à un penalty que Miloš arrête.
C'est vrai.
C'est vrai.
Alors qui est-ce qui est le plus Fashion Week?
Adam Niago,
Anser.
Nilton,
pas mal. Ouais, un beau trio.
Qui est-ce qui est le plus habitué des 2 minutes?
Robin.
Nilton, on l'a pas eu beaucoup cette saison, mais je pense qu'il pouvait être, il pouvait être pas mal.
Il y a Adam qu'on a chopé 2-3 aussi quand même.
Aussi, bah forcément, après c'est les postes où ils sont beaucoup plus exposés.
Et tu payes à la caisse noire quand tu prends 2 minutes?
Non, quand tu prends un carton rouge, oui.
Quand tu prends un rouge.
Ou si tu prends 2 minutes, mais pour autre chose que le jeu, pour une contestation.
D'accord.
Après, ce qui est bien, c'est que des rouges, on en a pris beaucoup cette année, donc.
Donc on s'est bien amusé
dans la caisse noire.
Mais après, tu vois, prendre 2 minutes, c'est bien parfois. T'es un mois après, mais ça veut dire aussi que t'es agressif en défense. Ça dépend de la façon dont tu les prends, mais c'est aussi un bon indicateur.
Qui est-ce qui a le plus de dossiers compromettants au cul? Ok, alors la suivante.
Vous faites pas piéger, les gars.
Je vous pose la suivante. Qui est-ce qui est le plus drôle?
Plus drôle?
Il y en a plein.
Il y a beaucoup de...
Alors je vais vous poser. Bah, alors peut-être le moins drôle, ce sera peut-être plus facile.
Non, je risque pas.
Alors, qui est-ce qui est le plus patron?
On peut dire Jojo.
Ouais.
Et on peut dire Jojo parce que pour le coup, quand il y a des décisions à prendre, comme il dit, il laisse faire souvent les autres, mais quand il y a une vraie décision à prendre, c'est Jojo.
Quand il faut choisir la destination pour partir en vacances, ça, par exemple, il est là, quoi.
Oui, mais par exemple, Jordan, est-ce qu'il y en a d'autres sur qui tu te reposes un peu quand il faut que tu fasses ton rôle de capitaine un peu plus en retrait ou...
Bah, on a beaucoup échangé avec Alan tout au long de la saison. Et Yanis, qui a été blessé là pendant longtemps, mais Yanis aussi, qui est très bien dans la motivation du groupe, recadrer un peu les choses. Donc non, ça a été un travail collectif.
Ok. Et puis la dernière question, qu'on n'est pas vraiment une, qui est-ce qui a été le plus heureux de la montée? Je pense que...
Voilà, là, il y a toute une ville.
Ouais. Ouais, on a été quelques milliers. Là.
Ouais. Ouais. Ce qui est fou, c'est que j'ai reçu, je pense, une trentaine, quarantaine de messages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pleuré devant la finale.
Ah mais ouais, on s'inclut dedans, enfin, on est beaucoup. Hein.
Mais c'est incroyable, et c'est fou.
Non mais c'est émouvant, après quand on fait du sport, peu importe, mais quand on peut partager des émotions comme ça, celle-ci était incroyable, elle restera toute notre carrière, peu importe ce qu'on va vivre maintenant, mais ce moment-là, on s'en rappellera tous toute notre vie, et on a la chance d'avoir mérité de gagner ce moment-là.
Ouais, c'est une très belle conclusion. J'avais envie de dire justement pour terminer, merci pour les émotions, on était en manque, et merci pour tout ça. C'était assez fou, et surtout, comme je disais tout à l'heure, l'abnégation et le fait qu'on ne l'ait pas eu l'année dernière, mais qu'on l'ait cette année, et avec la manière. Encore bravo.
Merci beaucoup.
Quelqu'un avait un petit mot de la fin? D'habitude, on fait un petit pronostic.
Un petit pronostic.
Bon là, on va pouvoir faire le petit pronostic.
Si, bah, combien on va finir?
Ah bah vas-y. Puisque tu le lances, vas-y mon champion.
Plus... On se maintient, je pense.
Ah oui, on se maintient, on évidemment. Maintient on va pronostiquer autre chose, évidemment. Voilà. On y croit. Non, j'y crois. Enfin, voilà. Après, moi, je connais plus les Vikings que le Hand en général, mais quand je vois l'état d'esprit, quand je vois tout ce qu'il y a autour, quand je vois. Enfin, ouais. Moi, franchement, je crois à la belle histoire qu'il y a autour de tout ça. C'est ça qui est chouette.
Et vraiment, aux gens qui nous écoutent et qui sont plus dans le foot, allez vraiment au Palais des Sports. Ouais. Allez sentir l'ambiance.
Pas trop, parce qu'après, c'est dur d'avoir des places.
Oui, bah, de toute façon, c'est déjà dur d'avoir des places. Donc, mais allez-y, vous allez prendre votre petite dopamine qu'on n'a plus depuis quelques temps.
Ouais. On est d'accord.
Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous raconter cette fin de saison de ouf. Et puis ben on se recroise certainement la saison prochaine.
À très très vite. Et puis ben Enzo, tu reviendras du côté de Caen, on
bien espère. Bien sûr, je viendrai les voir assez
C'est quand pour la vie de toute façon voilà. Maintenant.
J'ai gardé des super relations ici, donc je viendrai évidemment assez régulièrement maintenant que j'aurai peut-être un peu plus de temps les week-ends. Et les vendredis soirs.
Parfait.
Et surtout, on se verra surtout voilà, pour conclure, juste pour vous le dire, on l'a fait quoi.
On l'a fait.
On l'a fait. Et l'autre phrase, ce qui s'est passé à Alicante reste à Alicante.
Ciao.
Poutou.